Allez, verset 1 jusqu'au verset 19, Ésaïe chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 19. Ésaïe chapitre 30. Donc c'est un passage qui se trouve au milieu de quelques chapitres où, à partir du chapitre 29, vous voyez, ça commence à chaque fois avec le même mot, qui est le mot malheur, hein. Donc c'est une, on pourrait dire, c'est Dieu qui prononce, hein, un avertissement, un malheur sur ce peuple de Juda à cause de, bien sûr, de l'idolâtrie, de l'abandon des voies de Dieu. Et allons lire donc ce chapitre 30, enfin les quelques versets de ce chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Déjà, des princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Annès. Tous sont confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants « ne voyez pas », aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Juste puisque vous rejetez cette parole et que vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous dites, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Voilà donc ce passage qui va servir de base à notre méditation ce matin. Alors, vous avez compris là qu'il s'agit d'un avertissement que Dieu donne à son peuple, Juda, dont les dirigeants sont sur le point de faire alliance avec l'Égypte, parce qu'ils sont sous la menace de l'Assyrie. D'accord? Donc, les Assyriens vont probablement attaquer, et donc, ils voient ce danger qui arrive. Ils se sentent faibles par rapport à cette armée qui va les attaquer et ils cherchent du secours. Et bien sûr, où est-ce qu'ils cherchent du secours? Ils regardent vers le sud et ils se tournent vers l'Égypte. Et si vous avez en tête les textes bibliques, vous savez souvent que le peuple de Dieu a souvent cherché du refuge en Égypte. Après être même sorti d'Égypte, il a cherché, elle a voulu retourner en Égypte. Et même quand vous lisez l'histoire d'Abraham, ils sont aussi descendus en Égypte pour pouvoir chercher du secours. Isaac a fait aussi la même chose. Donc les décideurs de Juda, ils entreprennent vraiment un projet de faire alliance avec l'Égypte. En Ésaïe 29, verset 14, par exemple, verset 15 déjà, on voit, commence « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour se dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. » Donc déjà, Dieu souligne le fait qu'ils sont en train de fomenter des choses, de préparer quelque chose là ici en cachette. Mais au chapitre 30, on voit que ce projet est déjà maintenant bien plus avancé parce que voilà Dieu soulève le fait qu'ils sont sur le point, il y a même déjà des gens qui sont déjà en chemin pour pouvoir chercher l'aide égyptienne. Alors le premier verset de ce chapitre 30 nous montre vraiment comment Dieu considère ce projet-là. Et le premier mot qui est prononcé, c'est le mot malheur, et donc il est évident de voir que Dieu n'approuve pas ce projet et qu'il le rejette, et même qu'il prononce, il dit que cela attirera le malheur de ce peuple. Donc Dieu qualifie ce peuple, l'attitude de ce peuple par un mot qui apparaît au premier verset, et puis qu'on retrouve aussi au verset 9. C'est le mot rebelle. Il utilise des enfants rebelles. Il dit que ce sont des enfants rebelles. Et puis, au verset 9, il dit c'est un peuple rebelle. Il parle de son peuple, son propre peuple, le peuple de Juda. Et il dit que ce sont des enfants rebelles. Donc, ce qui veut dire que le fait de chercher à faire alliance avec l'Égypte est considéré par Dieu comme de la rébellion, pure et simple. Le fait de chercher à faire alliance, de chercher à s'appuyer sur autre chose que sur Dieu, eh bien, est appelé par Dieu de la rébellion. Donc, il qualifie cette rébellion, on voit dans les versets que nous avons lus, Dieu qualifie cette rébellion, il montre que c'est une attitude aussi folle qu'inutile et qui attire le jugement de Dieu. Et puis, il appelle, bien sûr, le peuple à changer d'attitude et à venir à lui. Donc, c'est ainsi qu'on trouve, par exemple, au verset 15, un verset qu'on aime bien citer, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et donc, c'est là l'appel que Dieu fait à son peuple pour lui dire que le salut, ils ne seront pas sauvés par les Égyptiens, ils ne seront sauvés que s'ils font confiance à Dieu lui-même. Et donc, c'est ça que nous voulons reconsidérer un peu ce matin dans ce passage-là, où Dieu décrit la rébellion et où il montre la folie de cette rébellion et puis où il donne le remède contre l'esprit de rébellion que nous pouvons voir ici. Donc le titre du message ce matin, c'est de la rébellion à la confiance en Dieu. Et il faut considérer ici que Dieu ne parle pas à des gens qui sont hors de son peuple, il parle à son peuple. Donc il est question, pas question de la rébellion de ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, mais de ceux qui sont son peuple, qui ont été mis au bénéfice de l'œuvre de Dieu, qui normalement connaissent sa parole, vers qui les prophètes se tournent et puis leur annoncent, leur adressent la parole de Dieu. Donc nous voulons considérer premièrement la nature de l'esprit de rébellion, parce que cela nous concerne aussi en tant qu'enfants de Dieu. On peut être dans cette attitude où on cherche appui ailleurs qu'en Dieu. Et cela est la rébellion. Et comment se manifeste cet esprit de rébellion? Regardez ce que nous lisons au verset, premier verset. Il dit « Malheur, dit Dieu aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. » Je crois que la première marque ici, premier trait de cette nature de la rébellion, c'est le fait de planifier maintenant Dieu à l'écart. Vous voyez ça ici? Ils font des plans. Ils maintiennent Dieu à l'écart. Il dit, ils prennent des résolutions sans moi. Ils font des alliances sans ma volonté. Ils descendent en Égypte sans me consulter. C'est-à-dire que Dieu est maintenu à l'écart de leur projet. Et même, ils le font, on l'a vu, à un moment donné, il est question qu'ils le faisaient en cachette. Ésaïe 29:15, il dit, Dieu dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Donc, c'est, bien sûr, il est impossible de cacher quoi que ce soit à Dieu. C'est évident. Mais parfois, les hommes, même les enfants de Dieu, agissent en une manière de faire, d'agir qui telle que c'est comme s'ils cherchaient à cacher à Dieu ce qu'ils font. Celui qui voit tout, celui aux yeux duquel rien n'est caché. Tout est à nu devant lui. Mais néanmoins, on fait les choses en secret, on n'en parle pas, on ne partage pas, on prend des décisions sans consulter Dieu. Et ça, c'est planifier quelque part en maintenant Dieu à l'écart. En lisant ce verset dans la version Darby, on pourrait lire, il dit que ce sont ils agissent pour former des desseins, mais non de par moi, pour établir des alliances, mais non par mon esprit, pour descendre en Égypte, et ils n'ont pas interrogé ma bouche. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on sent vraiment ici que Dieu est mis de côté, il est mis ici à l'écart. Et donc, ce qui est souligné bien clairement ici, c'est l'absence de Dieu, l'absence de son instruction, l'absence de la direction de son esprit dans ce que le peuple, ce que les dirigeants de Juda sont en train de faire. Ils planifient leur sécurité et leur protection contre cette armée assyrienne qui est en marche contre elle, sans du tout consulter Dieu. Et ça, c'est la marque de l'esprit rebelle. L'esprit rebelle commence par écarter Dieu, enfin, pense écarter Dieu, on ne consulte pas en tout cas dans ses plans. La rébellion du peuple de Dieu se manifeste donc par cette obstination, on pourrait dire, à vouloir décider par lui-même. Je suis suffisamment grand. C'est-à-dire être indépendant. On aime bien parler de pouvoir faire ses propres choix par soi-même. Mais dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, c'est de la rébellion parce que Dieu veut que son peuple dépende de lui. Quand on a un enfant qui grandit, on voudrait normalement, tout en grandissant, il devienne indépendant. C'est ce que, s'il reste toujours accroché et dépendant des parents, on dit bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut qu'il puisse prendre ses aises et puis devenir indépendant. Mais dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la famille de Dieu, c'est quelque part le contraire. On part de cette indépendance que l'on avait et puis on devient de plus en plus dépendant de Dieu. On dépend complètement de lui pour toute chose, pour toute notre subsistance, pour toutes les questions de notre vie. Et on le consulte pour toutes ces choses. Et donc, c'est de la rébellion que de cultiver le secret et sur ses intentions, sur ses projets, et de n'en pas parler à Dieu, de n'en pas le lui soumettre, et d'agir en fait comme si Dieu n'existait pas. C'est ce que le peuple fait ici. Hein. Il y a d'un côté la Syrie qui vient, et ils se retournent, ils voient l'Égypte, ils vont chercher du secours en Égypte. Et entre les deux, il n'y a absolument aucun recours à Dieu. Donc, l'esprit de rébellion se manifeste par le fait de planifier en maintenant Dieu à l'écart. Ça se manifeste aussi par le rejet de Dieu à travers le rejet de sa parole. Ouais. Regardez ce que nous dit le verset 9 et le verset 9 à 11. On va lire cela. Il est dit « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. » La rébellion consiste à ne plus vouloir écouter la loi de l'Éternel. Et puis ça se termine, on regarde au verset, la fin du verset 11, et on finit par dire éloigné de notre présence le Saint d'Israël. C'est-à-dire c'est le rejet de Dieu lui-même en rejetant tout ce qui touche de près ou de loin à sa parole. Ici. Et c'est comme ça que Dieu décrit la rébellion. Ici, voilà, c'est le fait de rejeter sa parole, le refus d'écouter la loi de l'Éternel. Ils ne veulent pas de cette loi, ils ne veulent pas l'entendre, et encore moins se soumettre à cette loi. Ils sont indifférents à cette loi, peu importe ce qu'elle enseigne, ça ne les touche plus. Dieu donc ne décrit pas ici, vous voyez, la rébellion comme une revendication avec le poing levé contre lui, mais par simplement le fait de négliger sa parole. L'enfant de Dieu qui ne lit plus, qui ne médite plus la parole, est un rebelle aux yeux de Dieu. Nous voyons la rébellion parfois comme quelque chose d'ouvert et puis qui une manifestation où on va brandir le poing contre Dieu, on dit voilà, on est en rébellion. Non, mais la rébellion, c'est simplement le fait de passer sans lire la parole de Dieu. On ne la lit plus, on commence à l'abandonner. C'est de la rébellion, c'est un esprit de rébellion. C'est comme si on disait ici, Dieu pourrait dire, ce sont des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Dieu. Et c'est une volonté, hein, Dieu dit que c'est une volonté qu'ils ont de ne point écouter ici cette loi. N'est-ce pas? Regardez encore un peu plus loin, comment se manifeste donc ce rejet de la loi de Dieu. Ils disent aux voyants, ne voyez pas aux prophètes, ne nous prophétisez pas de vérité, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Dans ce désir de s'éloigner de Dieu et de sa loi, il y a le désir d'orienter le message de Dieu même selon son propre cœur. On voit des gens qui, ça arrive des fois, hein, qui veulent que l'évangile soit conforme à ce qu'ils veulent, eux, ici. Donc le rejet de la loi de Dieu se manifeste vraiment par ce désir que cette loi soit modifiée, c'est ce que le peuple dit ici. Ne nous prophétisez pas des vérités, mais dites-nous des choses flatteuses. On veut pas la vérité, on veut des choses flatteuses. Et il y en a qui font, il y en a qui profitent de cela, n'est-ce pas? Qui enseignent des choses qui vont caresser dans le sens du poil. Je parlais avec une sœur au téléphone cette semaine et elle m'a dit, oui, bon, ben là-bas, là où je suis, bon, voilà, elle exigeait qu'on s'attache à la parole de Dieu. Et quelqu'un lui a dit, mais tu es trop rigide. Hein? Elle dit, mais je suis pas rigide, je veux simplement qu'on nous donne la vérité de la parole de Dieu. Et c'est vrai, hein, parfois, il y a des gens qui donnent ce qu'on a envie d'entendre, hein, qui prêchent un évangile comme les gens ont envie de l'entendre, parce qu'ils savent que les gens veulent cela. Mais l'enfant de Dieu qui est rebelle, il peut agir de cette manière-là aussi. Il n'a plus envie d'entendre les vérités de la parole de Dieu. Ça vous est déjà arrivé parfois quand vous parlez à des gens qui vous disent, auxquels vous citez parfois un passage pour les encourager. Ils disent, mais je connais déjà ça, c'est pas la parole de Dieu que j'ai besoin d'entendre. Je connais déjà toutes ces choses. Okay. Et est-ce qu'il y a un moment de la vie où on n'a pas besoin d'entendre la parole de Dieu? Non, pas du tout. N'est-ce pas? Et donc, c'est ce que font ici ces gens, hein. Ne prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses et puis prophétisez des chimères. Faites cesser les visions. Faites taire les prophètes. Ou tout au moins, il faut qu'ils orientent, hein. Orientez votre message. Prophétise si tu veux, dit-il, hein. Mais ne prophétise pas la vérité. Dis-nous des choses qui ne nous dérangent pas. Ouais. Dis-nous des choses qui nous flattent, qui nous confortent dans nos choix, n'est-ce pas? Le choix d'aller, par exemple, chercher de l'aide en Égypte. Voilà, dis-nous que ça, c'est bien. Dis-nous des chimères. Alors, qu'est-ce que les chimères? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les chimères, mais les chimères, c'est cherché dans le dictionnaire, c'est un animal fabuleux ayant la tête et le poitrail d'un lion, le ventre d'une chèvre et la queue d'un serpent. Vous avez déjà vu un animal comme ça? Non. Donc, ils sont en train de dire, dites-nous des choses qui n'existent pas. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas la réalité, des fables. Des choses qui peuvent flatter notre sens, mais qui sont pas la réalité. Ça, on veut bien entendre tout cela. Mais la vérité qui consiste à dire de ne pas aller en Égypte chercher de l'aide, ça, on veut pas l'entendre. Ou qu'on est sous le coup du malheur de Dieu si on le fait, ça, on ne veut pas l'entendre. Loin de nous, cette vérité-là. Et c'est ce que l'apôtre... On a un exemple de cela dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul parle de la nature des personnes rebelles, l'esprit des derniers temps. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est exactement ça. Prêche-nous selon notre désir, dit ce peuple ici. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Parce qu'il faut toujours se tourner vers quelque chose quand même. On ne peut pas ne rien entendre. Si on se détourne de la vérité, c'est pour entendre autre chose. Et il dit que ça marque la fin des temps où, ce temps où les gens ne veulent plus entendre la vérité. Ils se détournent de la vérité. Par contre, on absorbe des fables et des fables comme si c'était la vérité. N'est-ce pas? Et l'enfant de Dieu peut, parfois, être tenté par cela. Et c'est des avertissements qui sont là pour les enfants de Dieu. Il faut avoir cette attitude plutôt de Corneille, n'est-ce pas? Quand il était devant Pierre, lorsque Pierre vient pour lui annoncer l'évangile. Et Corneille dit ceci avec toute sa famille et des amis qui sont rassemblés dans sa maison. Il dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il dit pas, dis-nous ce qu'on a envie d'entendre, dis-nous des choses qui nous disent qu'on est gentil, qu'on est bien, qu'on est... Non, il dit, dis-nous ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Exactement le contraire de ce peuple de Juda qui ne veut pas entendre ici la vérité. Et ça marque leur rébellion. Et puis aussi, on peut dire que la rébellion, elle se manifeste par la tentative de détourner même le prophète de sa mission. Regardez au verset 11, il dit, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier. Parfois, les attaques portent sur le prophète même aussi, qui est sommé de ne pas faire ce qu'il est en train de faire, ou d'aller ailleurs, comme dans Amos, si vous lisez Amos au chapitre 7, à un moment donné, Amos est prié de quitter le territoire, d'aller prophétiser ailleurs, de ne pas prophétiser dans la maison du roi, ce qu'il il ne se soumet pas bien sûr à cette injonction. Et puis aussi, regardez finalement, vous voyez que ça se manifeste par un rejet pur et simple de Dieu lui-même, le rejet de Dieu. Ils ne veulent plus la présence du Dieu saint, du Saint d'Israël. Ils disent éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Et c'est sans doute cette raison-là qui est le cœur du problème. Ils ne veulent plus de Dieu. Quand on ne veut plus de la loi de Dieu, c'est qu'on ne veut plus de Dieu du tout. Quand on ne veut plus du serviteur de Dieu, c'est qu'on ne veut plus de Dieu du tout. C'est ce que Moïse disait. Dieu même a dit à Moïse plutôt cela. Il a dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Et Moïse a dit au peuple, quand vous murmurez contre Dieu, ce n'est pas contre moi que vous murmurez, mais c'est contre Dieu que vous murmurer. Donc finalement, la rébellion, c'est le rejet vraiment de Dieu à travers le rejet de sa parole et de tout ce qui touche à sa parole de près ou de loin. Mais une troisième chose qui caractérise cette rébellion aussi, c'est la confiance. Donc on a vu premièrement qu'il y avait le fait de planifier en maintenant Dieu à l'écart. Deuxièmement, le rejet de Dieu à travers sa parole. Et troisièmement ici, la confiance en ce qui est tangible et visible, plus qu'en Dieu. C'est ça que on peut souligner ici. Les dirigeants de Juda sentent venir la menace assyrienne et ils choisissent de se tourner vers l'Égypte. Et ils font confiance à l'Égypte pour leur protection. Parce que ça, c'est tangible. C'est visible. N'est-ce pas? Je peux le voir, je peux le toucher. Faire confiance à quelque chose qui est visible est toujours plus tentant que faire confiance pour nous, quand le cœur est vraiment pas au Seigneur, mais de faire confiance à Dieu que l'on ne voit pas ici. Alors bien sûr, on peut dire, je fais confiance à Dieu, mais il faut aussi des moyens tangibles et des moyens visibles sur lesquels je m'appuie. Et donc il semble que ce qui est visible ici dans ce passage, ce qu'on peut toucher, procure plus d'assurance et de sécurité que le faire confiance à Dieu que l'on ne voit pas. Et c'est ainsi que le cœur naturel analyse souvent les choses. N'est-ce pas? Il veut voir. C'est pour ça que nous sommes dans l'Écriture enseignés à vivre non pas par la vue, mais par la foi en Dieu. Les choses, il y a des choses qui sont des choses visibles, bien sûr, mais la Bible dit qu'elles sont passagères, hein, celles qui sont invisibles, elles sont éternelles. Donc, mettre la confiance éternellement en Dieu. Le peuple place sa confiance dans ce qui lui semble sûr à ses propres yeux. Et ce qui est sûr à ses propres yeux, c'est ce qui est toujours visible. Et c'est vraiment ce manque de confiance en Dieu et cette recherche d'appui sur du concret, en tout cas à nos propres yeux, qui est une marque de la rébellion. Au chapitre 31, Dieu dit la même chose, verset 1, regardez, il dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour voir du secours qui s'appuie sur des chevaux. » Vous voyez, l'Égypte a des chevaux. Mais on peut dire, mais Dieu, je vois pas ces chevaux. Hein? Il se fie à la multitude des chars. Hein? L'Égypte a beaucoup de chars, hein? Et beaucoup de cavaliers. C'est évident. Et si je fais appel à eux, ils pourront m'aider. Mais il ajoute, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Et ici, donc, ce que Dieu met en évidence ici, c'est le fait de s'appuyer sur la multitude, la quantité, le tangible, les grandes choses évidentes qu'on peut voir avec nos yeux, plutôt que de placer sa confiance par la foi dans celui qu'on ne voit pas. C'est difficile. C'est une chose qui est très difficile. Et quand on regarde notre propre vie, certainement nous agissons beaucoup comme cela. Nous pouvons vite avoir recours aux solutions humaines avant de chercher la face de Dieu. Parfois, nous adressons à Dieu en dernier recours et pas en premier recours. Donc ça, je pense que ce point que nous avons vu caractérise vraiment l'esprit de rébellion. Mettre Dieu à l'écart rejeter la parole de Dieu, tout ce qui consiste à rejeter Dieu lui-même, ne pas considérer sa parole. Et puis, ici, chercher vraiment à s'appuyer sur ce que nos yeux voient, hein, comme les gens disent. Quand les gens qui disent « je ne crois qu'à ce que je vois », c'est la même chose. Hein. Ça s'appelle de la rébellion, tu dis. C'est comme cela qu'elle se caractérise. Deuxième chose que je voulais souligner, c'est la folie de l'esprit de rébellion. Donc, on a vu la nature, un peu, de l'esprit de rébellion. Maintenant, la folie de l'esprit de rébellion. Dieu montre que cette attitude de rébellion qui consiste à planifier sans Dieu, à se détourner de sa parole et à prendre appui sur autre chose que lui-même, n'est que pure folie. C'est une folie. Regardez les versets 3 à 8 que nous avons lus. Il dit « La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Verset 5, il dit « Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. » ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Il dit, c'est une folie que de vouloir s'appuyer sur l'Égypte. Cela va attirer votre honte. L'esprit de rébellion conduit à la confusion, c'est ce qu'on voit au verset 5 et au verset 6. Une telle attitude, une telle confiance dans des moyens humains ne peut entraîner que la confusion. Et ce mot est évoqué plusieurs fois entre les versets 3, vous voyez ici le verset 5. La honte, la confusion, l'ignominie, la honte encore, l'opprobre. hein, pour montrer vraiment cette folie qui consiste à se confier dans les moyens humains, de placer sa confiance, en tout cas, dans les moyens humains. Alors, qu'est-ce qui fait cette confusion? Eh bien, je crois que c'est le fait, verset 7, c'est le fait d'attendre un secours qui ne viendra pas. Il dit, le secours de l'Égypte est vanité et néant, dit Dieu au verset 7 ici. Ils s'attendent au secours de l'Égypte, mais ce secours ne viendra pas. Ou alors, si ça vient, ça ne sera pas du tout pour les délivrer comme ils espèrent être délivrés. Donc, c'est une confusion quand on s'attend à quelque chose, on prévoit, on va chercher de l'aide quelque part, et puis, finalement, c'est la catastrophe. Hein. On est soi-même confus. Et puis, il dit aussi que c'est de la confusion à cause de, je vais dire ici, l'inadéquation entre les efforts investis, les efforts consentis, et le résultat obtenu. Et je crois qu'il y a une image qui est donnée au verset 6 de cela. Il dit « Sentence des bêtes du midi à travers une contrée ». C'est un peu une espèce de satire ici, hein, quelque part. Hein. Il dit « Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse, d'angoisse, d'où viennent la lionne, le lion, la vipère, le dragon ». Ils portent à Dodane leur richesse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que, voilà, ils vont prendre des risques considérables. Traverser une contrée, donc qui se trouvait un peu dans le sud, avant d'atteindre une bande qui se trouvait dans le sud, avant d'atteindre l'Égypte. Ils vont traverser cette contrée qui est inhospitalière, dans laquelle il y a des bêtes, il y a du danger, pour pouvoir aller chercher du secours auprès de l'Égypte. Ils prennent des risques. Et en plus de cela, ils investissent financièrement dans cette chose parce qu'ils portent sur les chameaux leur trésor et ils le portent à un peuple qui dit qu'il ne leur sera point utile. Ils ont pris des risques et ils ont donc fait des efforts, ils ont investi financièrement pour avoir l'aide de l'Égypte. Et Dieu dit c'est une folie parce qu'ils n'auront pas l'aide de l'Égypte. C'est une folie. Et donc, vous voyez, où mène cet esprit de rébellion? Il conduit vraiment à la confusion qui est une véritable folie. Ce peuple, il parle deux fois, versets 5 et 7, que ce peuple ne leur sera pas du tout utile. Il n'y aura aucune utilité pour eux dans ce qu'ils font. C'est comme ce que dit le Proverbe 25, verset 19, il dit, comme une dent cassée, et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. C'est pareil à celui qui essaie de manger avec une dent cassée, complètement. C'était difficile, c'est pas très très... En général, on aime avoir toutes ses dents quand on veut croquer bien quelque chose, n'est-ce pas? Ou celui qui essaie de marcher, faire une course, avec un pied qui chancelle, un pied qui est vraiment affaibli. C'est bancal, ça ne marche pas. Il dit, mais celui qui cherche à mettre sa confiance au jour de la détresse dans un perfide, c'est-à-dire dans une solution qui ne glorifie pas Dieu, eh bien, il dit ici, c'est pareil. Et donc, il y a ce peuple, ce que vous faites là, c'est de la pure folie, parce que il n'y aura aucun résultat. Le résultat que vous allez obtenir en regard du prix que vous avez investi, c'est catastrophique. Et donc l'esprit de rébellion conduit à la confusion. Et donc c'est une folie. L'esprit de rébellion aussi, c'est une folie parce qu'il attire le jugement de Dieu. Le verset 1 de notre passage commence par malheur à vous. Et c'est un malheur que Dieu prononce sur ce peuple ici. Et donc le premier mot, c'est vraiment le mot qui donne le ton de ce chapitre, qui est des autres aussi, que Dieu prononce un malheur qui va s'abattre contre cette attitude rebelle de la part de son peuple de Juda. En fait, ce chapitre indique que l'enfant de Dieu qui abandonne placer sa confiance dans le Seigneur va au devant de grands dangers et même du jugement de la part de Dieu. Et c'est un avertissement qu'il donne ici. Comme Jérémie 17, 5 dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » C'est une malédiction qu'il prononce ici. dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce que l'un ne va pas avec l'autre. Hein. C'est où on est à l'Éternel, où on a le cœur qui se détourne de l'Éternel. Mais c'est une malédiction que Dieu prononce ici. Et notez, ici dans les versets qui suivent, hein, si vous lisez le verset 12 jusqu'au verset 14, Dieu parle de la soudaineté du désastre qui pourrait s'abattre sur le peuple. Et verset 12, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole qui que vous vous confiez dans la violence et dans le détour, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme un vase de terre et comme l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Et on voit ici que le Seigneur prend des images, des illustrations pour frapper l'esprit de son peuple sur le danger qu'il court et la soudaineté avec laquelle ce danger peut arriver. Il prend celle d'un mur et puis celle d'un vase. Donc un grand mur qui paraît être inébranlable. Hein. Enfin, on a on peut voir ça, hein, des grandes bâtisses, de grands murs qui paraissent être inébranlables et puis qui finalement ont une faiblesse dans leur structure ou un vieillissement ou n'importe quoi et puis qui un jour ou l'autre, bam, s'écroule sans que personne ne s'y attende. Il dit mais c'est comme cela que ça va se passer pour vous. Vous voyez l'Égypte comme une montagne, comme une aide puissante, inébranlable. Eh bien, il dit voilà comment vous serez. Vous serez dans la confusion, puis vous serez comme ce mur là qui va d'un coup s'écrouler. Tout va s'écrouler autour de vous subitement sans que vous ne puissiez crier gare. Il dit c'est comme un vase aussi qui tombe, qui s'éparpille en de multiples débris et qu'on ne peut pas le recoller, aucun débris n'est utile à quoi que ce soit. Et donc, mettre sa confiance en autre chose qu'en Dieu, c'est s'exposer à une ruine soudaine. Et les différentes crises, parfois, que le monde a traversées, je crois, met cela en évidence. La dernière crise financière, par exemple, qu'on a eue en 2007-2008, qui a duré quelques années, eh bien, a vu des personnes qui avaient mis toute leur confiance dans les systèmes bancaires perdre tout en quelques instants. Hein. Vous avez peut-être entendu ces systèmes pyramidaux que les gens font parfois. Hein. Et il y a un homme qui s'appelait aux États-Unis Madoff là qui avait construit. Vous avez entendu ça peut-être, hein, qui avait construit ça une pyramide. Hein, d'accord, les gens gagnaient. Et puis bien sûr, c'était un mur, ça paraissait inébranlable. Tout le monde pouvait gagner toujours, tout le temps. Et il y a des gens qui ont investi des millions, et puis un jour, en une fraction de seconde, tout s'est écroulé. Et les gens ont perdu des millions et des millions. C'était une catastrophe. Et j'ai vu quelques reportages de ces personnes qui étaient encore, jusqu'à présent encore, sont sous le choc de cela. C'était un mur pour eux qui paraissait inébranlable, mais qui était défaillant. Hein. Et quand on s'appuie, quand on met sa confiance voilà, dans des systèmes, quand on met sa confiance dans les hommes, plutôt qu'en Dieu, eh bien, un jour, on peut être amené à voir que tout s'effondre de manière brutale. Ça peut être dans quelqu'un, dans une relation qu'on a mis ou dans n'importe quoi, et cela peut arriver de la même manière. C'est donc folie de connaître la parole de Dieu et de n'y prendre point garde, de la rejeter et de placer sa confiance en autre chose que Dieu. De nos jours, la médecine que l'on croyait est sûre et sans montre maintenant ses limites. C'est pas que c'est mauvais la médecine, mais peut-être on croyait, il y a des gens qui disent on croyait qu'on avait un système de santé vraiment exceptionnel. Et puis une crise, un virus, et on s'aperçoit que oh, et finalement non, on est tout nu. On n'a pas tout ce qu'on croyait avoir. C'est exactement cette image-là qui est donnée ici par le prophète Ésaïe à ce peuple. Le peuple se fie à la multitude des chars et des cavaliers. Mais il oublie, comme le dit Ésaïe 31:3, que l'Égyptien est un homme et non Dieu, que ses chevaux sont chair et non esprit. Et quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. et tous ensemble ils périront. Il dit, vous voulez vous cacher à l'abri de l'Égypte, mais je peux frapper l'Égypte. Si je frappe le protecteur, le protégé, qu'est-ce qu'il va faire? C'est rien du tout. Il dit, voilà, Dieu a la capacité, le pouvoir de faire cela. Donc, il faut placer la confiance en lui et pas dans les chevaux, parce que le psaume 33 dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Donc ceux à qui cette parole vraiment est adressée et qui refusent de l'écouter, ceux qui professent être des enfants de Dieu, puisque c'est, il parle des enfants ici dans notre passage, et qui rejettent l'instruction de Dieu, se placent sous le coup du jugement vraiment de Dieu. Donc c'est une folie. Hein. L'esprit de rébellion est une folie à cause de ces choses. Et puis troisième et dernièrement, je dois souligner que Ésaïe ne fait pas que décrire hein, un peu cette folie, les conséquences que cela a, mais il donne aussi le remède à cette attitude de rébellion. Il dit, Dieu nous révèle ici la pensée du peuple face au jugement qu'il prononce. Ici. Il dit, on va prendre la fuite, verset 16, regardez, il dit, on va prendre la fuite, et on va courir, on va monter sur des chevaux, et on va courir vite. Et puis Dieu dit, mais les orques, ils vont vous poursuivre, ils vont courir encore plus vite que vous. Et puis vous allez terminer comme un étendard planté sur une montagne, c'est tout. Et il dit, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, au lieu de croire que vous allez pouvoir échapper, c'est impossible d'échapper au jugement de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, la seule chose et unique chose que vous avez à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Et donc, le verset 15 dit ceci. Car ainsi parle, ici, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors je vais lire ce verset dans la version Parole de vie, par exemple. Et il s'est traduit comme cela. Il dit, voici la parole du Seigneur, le Dieu Saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Et je pense que c'est un verset qui est très parlant pour nous à l'époque que nous vivons, hein, où on peut avoir beaucoup de crainte. Et le peuple avait de la crainte quand il voyait l'armée assyrienne qui allait venir. Il cherche de l'aide comme il peut partout. Et il s'agite pour chercher de l'aide. Il paye, il dépense de l'argent, il prend des risques pour chercher de l'aide. Et Dieu dit, non, voilà comment il faut faire. Il faut revenir à moi. Il faut placer votre confiance en moi. Et d'autres textes traduisent cela en disant, il faut vous repentir, vous tourner vers moi. C'est vraiment d'une repentance et d'une foi qu'il s'agit ici. Vous vous repentez, vous abandonnez votre manière de vivre, vous revenez à moi, vous placez votre confiance en moi, vous croyez en moi. Comme Jésus disait, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, vous croyez en moi. Et là, vous serez tranquille, vous serez calme et vous serez sauvé. Comme on a vu ce matin, Dieu est celui qui sauve parfaitement. Donc il s'agit ici d'une repentance, de la repentance et de la foi. Vous serez sauvés si vous vous tournez vers moi. Le grand problème de l'homme, c'est de croire qu'il parviendra à trouver le salut, la paix et la joie par ses propres moyens. C'est ce que fait ce peuple ici, qui pourtant a la parole de Dieu, pense qu'il va trouver la sécurité et la protection par ses propres moyens, en se confiant à quelqu'un d'autre. Et dans notre monde aujourd'hui, on pense que plus de sécurité, plus d'éducation, plus de moyens, moins de pauvreté nous permettra vraiment de progresser et d'être en paix et en sécurité. Mais la Bible dit que ce n'est pas juste. Elle dit quand les hommes même seront sur le point de crier « paix, paix », une ruine soudaine soudaine encore, comme le mur, les atteindra. Donc il n'y a pas de paix en dehors de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc cet appel, Dieu appelle son peuple et il lui dit, voilà, c'est en vous tournant vers moi, pas en vous détournant de moi pour aller vers l'Égypte, mais c'est en vous tournant vers moi que vous serez sauvés véritablement. Alors, c'est une invitation à venir à lui. Et cette invitation, cet appel repose sur la disposition de Dieu à faire grâce. Regardez le verset 18, il dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce ». Dieu est celui qui veut faire grâce ici. L'Éternel, il désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, et tous ceux qui espèrent et qui s'attendent à lui sont heureux. Et donc même si Dieu appelle le peuple à la repentance, l'espérance n'est pas dans la repentance elle-même, l'espérance est dans le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Et ça ici, il dit « parce que Dieu veut vous faire grâce ». Et un peu plus loin, il dit, verset 19, la fin, il dit « Il te fera grâce quand tu crieras ». Okay. C'est pas juste « tu te repens ». Oui, Seigneur, je me repens, je n'aurais pas dû faire cela, et puis je repars dans ce que je fais. Non, il dit « tu te repens sur la base que Dieu est un Dieu qui fait grâce, un Dieu de grâce et de miséricorde, qui veut faire grâce et qui veut faire miséricorde ». Et c'est le message qu'Ésaïe a pour ses enfants rebelles qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui veulent entendre des mensonges, qui veulent que le Saint d'Israël soit ôté de leur présence. C'est à un peuple aux dispositions hostiles qui tente de cacher à Dieu tous ses projets et qui cherche ailleurs qu'en Dieu leur secours que Dieu dit « J'attends pour vous faire grâce ». D'autres traductions le traduisent comme ça. Dieu le désire vous faire grâce. Dieu attend pour vous faire grâce. Et cette disposition, je l'ai dit, est encore montrée au verset 19. Ce n'est jamais le peuple ici qui est disposé à revenir vers Dieu, mais c'est Dieu qui est toujours disposé à faire grâce. Ésaïe 65, 2 dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voix mauvaise au gré de ses pensées. » Vous imaginez ça ici. Il présente Dieu comme celui qui tend sa main de grâce constamment alors que le peuple cherche à se détourner de lui. Il est toujours celui qui prend l'initiative. Dans toute l'Écriture, c'est ce que l'on voit. Qui va vers le pécheur, qui dit « Venez à moi, repentez-vous. » Et il dit que ceux qui le font, ils sont heureux. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Le bonheur, chers frères et sœurs, n'est pas dans ceux qui réussissent des projets, n'est pas pour ceux qui réussissent des projets, mais pour ceux qui espèrent en l'Éternel, qui s'attendent à lui et qui s'appuient sur lui. Alors, la deuxième partie de Jérémie 17 dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Et donc, je vais terminer. Ce que ce passage nous montre ici, c'est que la confiance en Dieu n'est pas une petite affaire. Dieu est absolument préoccupé par la confiance que ses enfants mettent en lui. Et on peut lire dans beaucoup, surtout dans l'Ancien Testament, on voit ces passages où est reproché à ce peuple le manque de confiance, l'abandon de la confiance en Dieu pour se tourner vers autre chose. Ce peuple, moi, abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se tourner vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est exactement ce que l'on voit ici. Dieu aime faire grâce et miséricorde. Et donc nous, si nous partons, si nous avons mis notre confiance dans autre chose que lui, il nous dit aujourd'hui que nous pouvons revenir à lui et placer notre confiance en lui. Si nous n'en avons jamais fait auparavant, mais aujourd'hui est le jour où nous pouvons placer notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Et il est celui qui sauve parfaitement. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut dans le travail, il n'y a pas de salut dans les relations, il n'y a pas de salut dans la science, il y a du salut qu'en Jésus-Christ seul. Parce que ce dont on a besoin d'être sauvé, c'est de la condamnation qui repose sur à cause du péché. La condamnation de Dieu, la colère de Dieu à cause du péché. Et puis, je voudrais dire aussi que nous devons apprendre à mettre notre confiance dans le Dieu qui donne les moyens et pas dans les moyens que Dieu donne. On doit apprendre à mettre notre confiance dans le Dieu qui donne les moyens et non pas dans les moyens que Dieu donne. Ça n'est pas une mauvaise chose que d'avoir recours à des moyens. C'est pas ce que notre texte enseigne. Il dit pas qu'il ne faut jamais avoir recours à aucun moyen sinon qu'à Dieu seul. C'est pas juste, même dans l'Écriture, on le voit. D'accord? À un moment donné, Dieu envoie pour, je crois que c'était quel roi à qui il fait mettre un pansement sur sa jambe. Donc il utilise la médecine. Dieu ne dit pas qu'il ne faut jamais voir les médecins. On remercie Dieu qu'il y ait des médecins, des gens qui ont fait des études. On remercie qu'il y ait des scientifiques qui peuvent faire des choses, qu'il y ait des ingénieurs qui fabriquent des instruments, des automobiles, des avions. Tout ça sont des choses qui sont bonnes. Ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Et il est absolument pas dit que parce qu'on est croyant, on ne doit pas utiliser plutôt des moyens qui sont à notre disposition. Je me rappelle, il y a longtemps, de cette personne qui m'avait dit une fois, il m'a dit, bon, quand on est croyant, on n'a pas besoin de porter des lunettes. Parce qu'on a foi en Dieu, et Dieu peut nous donner la vue. Alors là, vous êtes, pour certains d'entre vous, mal parti, je vois. Il y a beaucoup de lunettes, là. Moi, le premier. Et puis, quelques années plus tard, cette personne portait des lunettes. Bon, j'ai rien dit, mais... Mais parfois, on peut avoir cette attitude. C'est un frère qui aime le Seigneur, qui est pas ici. Mais voilà. Mais on peut avoir cette attitude, ce zèle qui nous pousse à aller bon là où il faut pas des fois. Et donc Dieu ne dit pas qu'il faut pas utiliser les moyens, mais il ne faut pas mettre sa confiance dans le moyen. Il faut la mettre en Dieu. Et il y a un exemple dans la Bible, regardez, on va terminer avec ça, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 11. 2 Chroniques 16, verset 11, où il y a un roi qui s'appelait Asa, qui à la fin de sa vie, il a fait de bonnes choses le roi Asa, beaucoup de très bonnes choses, et puis à la fin de sa vie, bon, ça a été un petit peu moins, mais au chapitre 2 Chroniques 16 et au verset 11, il est dit, les actions d'Asa, les premiers et derniers et dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda, d'Israël, la 39e année de son règne. Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Ah, c'est intéressant. Alors, Dieu ne lui reproche pas d'avoir utilisé les médecins. C'est pas ça qu'il reproche. Ce qu'il reproche, c'est de n'avoir pas, excusez-moi ici, il dit, il éprouva, pour ça m'a dit, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. C'est-à-dire qu'il a mis toute sa confiance dans la compétence médicale au lieu de la mettre en Dieu. Il dit pas qu'il ne devait pas voir les médecins. Nous allons voir les médecins quand nous sommes malades. Nous sommes contents de voir les médecins. Mais n'oublie pas, au-dessus de tout cela, c'est Dieu qui décide de toutes choses. Et c'est en lui qu'il faut mettre la confiance. Et donc ça, c'est la chose que nous devons apprendre à faire. Il faut utiliser les moyens que Dieu donne, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole, la prière, etc. Mais ce n'est pas dans ces choses que je mets ma pleine confiance. Je ne mets pas ma confiance dans la prière en elle-même, ou dans le fait que j'ai jeûné, ou dans le fait que j'ai médité la Bible. Je mets ma confiance en Dieu, et j'utilise les moyens que Dieu me donne pour que ma confiance en lui puisse grandir. Si. Donc, dans ce temps qui nous entoure, chers frères et sœurs, je termine juste avec ce verset, pour vous, dernier verset que je cite. Ici, dans Ésaïe 41, où Dieu dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est Dieu qui dit cela à son peuple. Donc, ne promenons pas des regards inquiets malgré tout ce que nous entendons. Quand nous appliquons les consignes, nous appliquons les mesures, nous nous protégeons au mieux que nous pouvons, d'accord, parce que Dieu ne nous demande pas d'être insouciants, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Il faut placer notre confiance dans Dieu et chercher à nous appuyer sur lui profondément et non sur nos propres forces et nos propres moyens. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons de nous conduire afin que nous n'ayons pas un esprit de rébellion qui cherche à s'écarter de toi, qui cherche à s'appuyer sur nos méthodes, nos moyens, notre science, notre savoir, mais Seigneur, que nous puissions vraiment regarder à toi constamment, que nous apprenions vraiment à compter sur toi. Seigneur, à mettre notre espérance en l'Éternel, comme ta parole nous le dit. Et que nous puissions mesurer combien tu es un Dieu qui nous protège, qui nous aime, qui veut nous faire grâce. Seigneur, toi seul tiens toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, nous te prions que tu nous donnes cette pleine confiance et entière confiance en toi seul, pour la gloire de ton nom. Amen. On va chanter un cantique et puis après,